Les podcasts du Collège de France, Histoire.
La comédie de Guillaume de Bouscal ne montre pas, de Guérin de Bouscal, ne montre pas les retrouvailles entre Fernande et Dorothée. Donc il ne pousse pas l'argument du côté de cette reconstruire les unions des amants séparés. Mais il préfère de suivre une autre piste qui est directement liée avec son intérêt pour le spectacle de la princesse Micomicona. Lorsque Sancho, qui a cru à la feinte, il est parmi ses spectateurs crédules, comme Don Quichotte, voit la jolie princesse Dorothée embrasser Fernando, il découvre qu'elle est une simple demoiselle, et l'auteur, rapprochant deux moments séparés dans Le Quichotte, fait dire à Sancho, un jeune chevalier la tient entre ses bras, qui lui parle d'amour, la baise à chaque pas, elle le baise aussi, bref, ce sont des merveilles. Et dans la comédie, comme dans Cervantes, il faut toute l'adresse de Dorothée pour parer le coup, et qui pourrait évidemment détourner Don Quichotte, d'aider la reine du Micomicon à retrouver son royaume et ainsi ruiner tout le stratagème qui doit le faire retourner dans sa maison. Et c'est l'omniprésence des enchantements qui est mobilisée pour maintenir la fable. Je crois qu'en ces discours qui m'a tant offensé, dont sens je pourrais bien pécher innocemment, qui sait s'il n'a point vu par quelque enchantement de ceux qui tous les jours persécutent son maître ce qu'il a rapporté. Et donc du coup, c'est la sortie possible, la fin possible que met en œuvre Dorothée. Et le chevalier errant peut donc entreprendre, comme chez Pichou, le lointain voyage d'Éthiopie, et ainsi va se poursuivre le divertissement, comme le dit Fernande, qui a pris le relais de Don Lope comme maître des plaisirs. Nous pouvons rencontrer avec un peu d'étude les plaisirs de la cour dans la solitude. Allons y travailler, ne perdons point de temps et montrons désormais que nous sommes contents. C'est-à-dire qu'il y a un personnage qui est toujours dans ce rôle, qui est presque un rôle d'ailleurs de cour, si on pense à l'Angleterre avec The Master of Revels, celui qui est chargé des réjouissances, des divertissements royaux. Et ici, ce rôle d'organisateur des plaisirs est d'abord celui de Don Lope, et puis ensuite pris en charge par Fernande. Alors leur travail pour maintenir le plaisir de ces enchantements et donc de cette fable produit les péripéties des deux derniers actes de la pièce de Guérin de Bouscal, qui n'abandonne pas Don Quichotte au moment où il part sur le chemin de l'Éthiopie, mais qui pousse l'histoire plus avant. Il faut, comme dans tous les textes qu'on a rencontrés jusqu'ici, pour que cela soit possible, régler la question de l'intrigue entre les quatre jeunes gens et conclure l'histoire de ces amants qui maintenant se sont retrouvés. Une seule scène y suffit, la première de l'acte 4, Fernande qui est repentant de tous les torts qu'il a fait à Cardenie, à Lucinde, à Dorothée, qui promet aux deux premiers de favoriser leur union. Et ce qui permet de retrouver une autre fois la versification favorite de Bouscal. Fernande, que votre mal fût grand, car Cardenie qu'il est récompensé. Fernande, que je vous fus cruel, combien doux vous nous êtes. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que vous faites? Et à Dorothée, Fernande demande un pardon qu'elle lui accorde dans la même forme. Me pardonnerez-vous? En pouvez-vous douter? Puis-je le refuser? Puis-je le mériter? Vous êtes mon Fernande, et vous, ma Dorothée, que j'aimerais toujours, mais je vous ai quitté. Et Dorothée, de les rassurer, les beautés de madame, elle montre Lucinde, excuse votre erreur, mais trêve à ces discours, voici notre empereur. Et donc, du coup, on voit qu'il s'agit de régler cette affaire, bon, pour que l'intrigue de Cardenio soit finalement épuisée. Mais ce qui importe, c'est voici notre empereur, c'est-à-dire l'arrivée de Don Quichotte. La nouvelle est donc achevée, mais l'histoire comique peut continuer à travers le quatrième et le cinquième acte. Le quatrième acte est construit à partir de deux scènes qui sont les chapitres 44 et 45 de Cervantes, lorsque le barbier vient récupérer un autre barbier, pas Barbero, un autre barbier vient récupérer le home de Membrin, c'est-à-dire le bassin qui lui servait et que Don Quichotte a conquis ou volé au chapitre 21. Et tous les présents s'amusent à confondre le barbier et les archers qui l'ont suivi en leur disant, en affirmant que ce bassin est bien l'armée, est bien le casque du chevalier errant. Et ceux-ci se retirent, déclenchant les imprécations de Don Quichotte. Au ciel, au temps, au meurt, au comble de malheur, la terreur des brigands est prise pour un voleur. Archer, vous apprendrez qui je suis, qui vous êtes. Ce bras peut me venger, ce bras doit vous punir. Et là encore, il y a évidemment la parodie tout à fait présente. Et il faut en finir. Peut-être aussi de ce cours, mais enfin, il faut en finir, c'est-à-dire le fait que... On va trouver un moyen qui est de donner à Fernande à nouveau son rôle d'ordonnateur des divertissements et il est tout disposé à une nouvelle intrigue. Allons préparer tout. Je veux que chacun dise que ce seul incident vaut une comédie. Et ici, le dernier acte est intéressant parce que la comédie finale qu'ils vont jouer à Don Quichotte et à Sancho est la première adaptation théâtrale de chapitre de la seconde partie du Quichotte, puisque jusqu'ici, toutes les appropriations que j'ai mentionnées, par nécessité, puisque la seconde partie n'était pas encore publiée, le cas de Cardenio shakespearien et fletcherien, le cas de Guillaume de Castro, ou bien parce que même si elle avait été publiée et traduite, comme dans le cas des pièces françaises. Je vous rappelle que la traduction de la seconde partie du Quichotte en français paraît en 1618 et elle est traduite par François de Rosset, donc un nouveau traducteur qui n'est pas celui de la première partie, César Houdin, mais l'un et l'autre avaient collaboré à la traduction, ont collaboré à la traduction la même année, 1618, des nouvelles exemplaires. Donc cette seconde partie, parue à Madrid en 1615, traduite en 1618, avait été négligée par Pichou, mais Guillaume de Bouscal, est le premier à s'en saisir pour créer dans le cinquième acte une intrigue autour d'un épisode qui est un des mauvais tours joués par le duc et la duchesse au chevalier errant et à son écuyer. Alors là, les souvenirs sont sans doute plus faibles, puisque la lecture de la seconde partie du Quichotte est moins fréquente, moins familière que celle de la première partie. C'est une histoire dans laquelle une fausse comtesse, la fausse comtesse Trifaldi, l'une des duègnes de la duchesse, est au cœur de ce tour qui est joué à Don Quichotte, et en même temps, l'histoire liée avec ce cheval de bois, Clavileño, qui emporte dans les airs Don Quichotte et Sancho. Alors, cette double histoire qui est liée, celle de la comtesse Trifaldi, la fausse comtesse qui est jouée par une des servantes de la duchesse, et d'autre part, cette histoire du cheval de bois, Clavileño, qui est supposé emmener dans les airs Don Quichotte et Sancho, comme chez Cyrano de Bergerac. Chez Cervantes, ça n'a aucun rapport avec la princesse Micomicona, puisqu'évidemment, l'histoire de la princesse Micomicona s'est achevée au chapitre 47 de la première partie. Il s'agit donc d'une toute autre histoire qui est liée à cette nouvelle localisation d'ailleurs du Quichotte, à la cour du duc et de la duchesse, et comme je l'avais dit en m'inspirant de Pedro Cátedra, le fait que la parodie s'est déplacée depuis la chevalerie errante, plus ou moins liée avec le sort historique de la petite noblesse, à une parodie de la chevalerie de cour. Et soit parce que Don Quichotte se moque des courtisans au nom des valeurs de la chevalerie errante, soit parce que lui-même se transforme en courtisan, et c'est là où il est l'objet de moqueries à l'intérieur des rôles des gentilshommes de cour, par exemple la danse. La comédie de 1638, elle, en France, noue les deux histoires, parce qu'il ne pouvait pas avoir cette rupture brutale, et l'histoire des deux, la suite des mauvais tours joués à Don Quichotte par le stratagème de la princesse Micomicona se trouve déployée, poursuivie par celui de la fausse princesse ou duchesse Trifaldi. La possibilité était offerte à Bouscal de faire cela dans la mesure où le ressort est le même, c'est-à-dire deux princesses persécutées, l'une et l'autre par un méchant géant, ce méchant géant que doit vaincre Don Quichotte afin que l'une, Micomicona, retrouve son royaume et que l'autre, Trifaldi, soit désenchantée, ainsi que les héros malheureux de l'histoire que raconte la comtesse Trifaldi, c'est-à-dire une histoire dans laquelle un chevalier, Don Clavijo, qui devient Don Claviche dans la pièce française, a été transformé en crocodile, l'infante Antonomasia, avec laquelle il a eu un enfant, a été transformée en guenon, et les duègnes ont été dotées de barbes disgracieuses pour avoir causé le trépas de la reine Maguncia, morte de chagrin, en apprenant la mésalliance et l'inconduite de sa fille, et vengée par un enchanteur, Malambruno. Il faut bien dire que c'est une histoire assez complexe dans la deuxième partie du Quichotte, et qui a perdu peut-être la vivacité de la première partie, ce qui expliquerait pourquoi peut-être, au moins dans ces parties-là, le Quichotte a été moins mémorisé et rappelé que dans la première partie ou d'autres épisodes de la seconde partie. Alors, cette deuxième histoire, la comédie de la comtesse de Trifaldi, permettait, malgré la complexité un peu absurde de l'histoire, des effets de théâtre. Et c'est assez curieux parce que Bouscal, qui avait évité certains effets de théâtre en commençant sa pièce après la scène du mariage, spectaculaire s'il en est, va à la fin de cette pièce, récupérant la comédie de la comtesse Trifaldi, les multiplier, et en particulier avec l'arrivée du cheval de bois, Clavilegno, devenu chevillard dans le texte français, qui est porté par quatre sauvages chez Cervantes, salvajes, par quatre démons dans la comédie, et à partir de là, dans un spectacle assez fort, Bouscal va jouer sur quelque chose qui était dans le texte de Cervantes, c'est-à-dire un artifice qui fait croire à Don Quichotte et Sancho, qui ont les yeux bandés, qu'ils approchent, je cite, du feu qui brûle sans matière, et ensuite l'explosion de ce cheval de bois bourré de fusées et de pétards et dont la queue s'enflamme. Et dans l'édition de 1639, l'indication scénique dit « on allume à même temps des fusées qui éclatent le cheval de bois ». Et donc, du coup, on a là une mise en scène spectaculaire assez proche, finalement, d'une mise en scène de théâtre de la foire, sur des effets visuels qui jouent sur ce registre. Et après, il y a le retour du chevalier et de l'écuyer sur la terre, puisqu'ils sont pensés avoir été transportés dans les sphères célestes. Tous les autres personnages ont mimé un évanouissement, ils en sortent. Comme Don Quichotte, ils lisent un feuillet de papier attaché au-dessous d'une lune de verre qui énonce en stance la fin de l'aventure. Le vaillant Don Quichotte acheva l'aventure du géant Malembrun par le seul soin qu'il prit de se mettre en posture pour combattre un à un. Don Claviche et sa femme en leur forme vivante contentent leurs souhaits et les mentons barbus de leurs dames errantes sont rasés et bien nets. Et c'est à partir de ce moment-là que Don Quichotte, comme chez Pichou, reprend le chemin du royaume d'Éthiopie et il est plus cornélien que jamais. « Allons, cela suffit, le géant est défait. » Et si mon beau renom ne prévient cet effet, il saura qu'à mon bras qui jamais ne repose, s'armer, combattre et vaincre est une même chose. Et Don Lope voit le succès de son dessein, souhaitant que le ciel permette qu'enfin je ramène à la manche ce fou de Don Quichotte et ce badin de Sancho. Alors, la pièce termine avec cela, et elle réussit à inscrire dans une comédie une autre comédie en liant les deux histoires des princesses éplorées, en donnant à Don Lope puis à Fernande le rôle de maître des intrigues, qui est chez Cervantes tenu d'abord par le curé, puis dans la deuxième partie par le duc et la duchesse, et en transformant tous les personnages, sauf Don Quichotte et jusqu'à un certain point Sancho, en spectateurs d'une pièce dont il scande l'intrigue par des remarques en aparté. « La pièce est agréable et nous divertira, » dit Fernande. « Cette histoire est la plus ravissante qu'on puisse raconter, » ajoute Dorothée, Et tous se félicitent de la manière dont ils tiennent le rôle. Fernande, eh bien notre aventure, Lucinte, est parfaitement belle. La comtesse Trifaldi, n'ai-je pas bien conduit ce discours inventé ? Alors cette théâtralité se fait évidemment aux dépens des morceaux poétiques qui étaient l'essentiel pour Pichou et qui ont assuré sans doute le succès de la pièce. Et dans le manuscrit que j'évoquais pour commencer, c'est-à-dire ce manuscrit qui attribue à Maréchal ce qui a été attribué à Guérin de Bouscal et qui ajoute deux scènes, les scènes qui sont ajoutées vont dans le même sens et renforcent ces effets de spectaculaire aux dépens de la poésie dramatique et aux dépens d'une vraisemblance fabuleuse de l'intrigue. Lorsque le cheval de bois est amené sur la scène dans l'acte 5, la scène qui a été ajoutée mentionne aussi des coups de tonnerre qui sont dans la machine conçue par Fernande. Et la scène est en musique, sans doute dansée, par les démons qui accompagnent le cheval de bois, comme l'indique une indication scénique, les violons jouent une tempête et des airs effroyables, le tonnerre se fait entendre et quatre démons entrent ensuite sur le théâtre, vomissant du feu et portant chevillard. Donc on renforce l'aspect spectaculaire avec la présence de la musique, avec une scène obligée, qui est peut-être l'équivalent des scènes obligées de folie au début du XVIIe siècle, qui sont dans l'opéra ou sur le théâtre, les scènes de tempête, accompagnées de ces airs effroyables dont parle le texte. Mais cette pièce-là, cette pièce de Guyon de Bouscal, qui n'a pas été rééditée après 1639, donc elle n'a pas la même vivacité littéraire, on pourrait dire, au sens de textes qui sont faits pour être lus, comme la pièce de Pichou. En revanche, semble avoir une vie assez longue sur les planches. Si la mention dans le registre de Lagrange en date du 30 janvier 1660, donc de la troupe de Molière, doit être entendue comme se référant à cette pièce, il est écrit par Lagrange que la troupe a joué un Don Quichotte ou les enchantements de Merlin, avec en marge l'indication « pièce raccommodée par Mademoiselle Béjart ». Et ça peut se rapporter au Don Quichotte, il y a une raison d'en douter, c'est que dans la pièce de Bouscal et dans le manuscrit, il n'y a pas de référence à Merlin. L'enchanteur n'est pas Merlin, même si dans Cervantes, il y a un long discours qui est assumé à un personnage de Merlin l'enchanteur au chapitre 35. En même temps, comme il y a en marge cette indication « pièce raccommodée par Mademoiselle Béjart », il est tout à fait possible que dans ce raccommodement, c'est-à-dire ces révisions des troupes donnant une dynamique à la pièce, l'enchanteur Merlin se soit substitué ou ajouté à l'enchanteur Malembrun, qui est celui du texte. Mais on voit donc du coup que dans la troupe de Molière est à la fois fidèle à, sans doute, cette pièce, mais plus, comme je le disais, plus encore à l'autre pièce de Bouscal, c'est-à-dire le gouvernement de Sancho Panza. Et dans la vie de Molière par Grimaret en 1705, il y a une allusion à un moment où Molière, jouant Sancho, monté sur un âne, se heurte à la difficulté qui est que cet âne ne veut pas entrer en scène. Et donc, du coup, il y a une allusion ici, on peut le penser, à la pièce, l'autre pièce de Bouscal, d'autant que, comme le dit le texte de Grimaret à propos de cette pièce, on l'avait prise dans le temps que Don Quichotte installe Sancho Panza dans son gouvernement. Et la seule pièce française qui correspond à cette définition, c'est celle de Guérin de Bouscal de 1642. Voilà donc que cette histoire, que moi j'arrêterai pour cette année au milieu du XVIIe siècle avec la pièce de Bouscal, elle se poursuit à travers cette appropriation-là qui n'est plus dramaturgique au sens que les pièces sont déjà écrites, mais qui est théâtrale au sens que ces pièces peuvent connaître des transformations, des raccommodements, comme le dit Lagrange. à travers la deuxième moitié du siècle, en particulier dans les années 1660-1670. Alors, ça serait un peu la conclusion aujourd'hui de cet épisode français, mais en essayant d'en sortir. Il est sûr que de suivre Guérin de Bouscal nous a un peu éloigné du Cardenio de 1613, des Kingsmen de la cour d'Angleterre. Mauvais tours joués à Don Quichotte par Micomicona et par Trifaldi l'ont emporté sur l'histoire des amants séparés puis retrouvés. Et on voit qu'ici, à la différence de Guillaume de Castro, dans une pièce qui a pour titre Don Quichotte de la Manche, même si elle commence avec Cardenhi et Dorothée, c'est bien le chevalier errant qui occupe l'essentiel du temps et des scènes. Et d'ailleurs, la première scène ajoutée dans le manuscrit, pas présente dans l'édition imprimée, renforce encore cela, puisque la pièce, dans cette version manuscrite, ne commence pas avec Cardenhi puis Dorothée, mais elle commence avec les lettres écrites par Don Quichotte dans la Sierra Morena, dans le triste désert, la lettre envoyée à Dulcinée, et la lettre, qui est un peu une lettre de change envoyée, donnée à Sancho pour se faire rembourser, si j'ose dire, de la perte de son âne par le vol de son grison, qui évoquait tout à l'heure les vers que je mentionnais, par la nièce de Don Quichotte, qui devra lui donner trois petits ânes qui viennent d'être, qui sont dans sa maison. D'emblée, dans ce cas-là, la pièce est située dans la version manuscrite dans le registre du ridicule de Don Quichotte, et aussi dans ce registre final, c'est-à-dire du spectacle, puisque la didascalie indique, Don Quichotte veut faire pénitence, et donc Sancho lui dit qu'il peut le faire en faisant une série de cabrioles, et la didascalie indique, il se désarme aidé de son écuyer, après quoi il pend ses armes en trophée à un vieux tronc d'arbre mort et saute, se donnant du talon à derrière, puis fait six culbutes, la tête la première et les pieds en haut. Cette indication renforce encore dans la version manuscrite ce qui pouvait appartenir à un registre théâtral qui était le registre du spectacle plus que du texte, le registre du mouvement, des mises en scène, des artifices, plus que le registre de la poésie dramatique, et qui marque la différence, évidemment, entre Bouscal, qui a un certain talent pour la parodie, même s'il en abuse, et Pichot, qui, lui, a une puissance de création poétique dans le cadre de l'esthétique baroque, telle que l'avait étudié Jean Rousset, qui consacre d'ailleurs quelques pages au texte de Pichot et au monologue de Cardenio. On voit donc que la pièce de 1638-39 marque un infléchissement de l'appropriation théâtrale de Don Quichotte. Non seulement parce qu'elle donne le premier rôle à Don Quichotte, mais ensuite parce qu'elle joue sur des ressorts qui sont des ressorts plus spectaculaires du registre de la comédie, éloigné de ce qui faisait peut-être l'essentiel de la tragicomédie. Vous vous souvenez, comme le disait Fletcher, les personnages s'approchent de la mort, mais personne ne meurt. Donc, proche de la mort, c'est une tragédie, mais personne ne meurt, ça reste une comédie. Mais évidemment, le genre conduisait, obligeait, ou permettait cette écriture poétique qui se référait à toute cette esthétique du théâtre où le primat est donné au poème dramatique, qui donc du coup peut entraîner le fait que l'édition imprimée est le véritable lieu où se constitue le public du théâtre. Alors qu'une autre tradition peut-être antérieure et sûrement en même temps contemporaine ou postérieure met le primat sur le spectacle, et donc du coup sur la représentation, laissant comme seconde la lecture à travers les éditions imprimées. C'est un partage fondamental dans le monde anglais entre les company men, les auteurs qui écrivent pour les troupes et qui donc du coup privilégient la performance contre les auteurs dramatiques qui sont, se pensent eux-mêmes ou sont tenus pour poète et donc privilégie l'édition imprimée. Et bien entendu, la dichotomie est un peu trop raide comme cela, mais clairement, elle se traduit par ces deux modes de localisation du théâtre entre le spectacle et le poème. L'infléchissement, il est clair, puisque les trois œuvres qui ont, avant Bouscal, porté sur la scène des épisodes du livre de 1605, la Commedia de Guillaume de Castro, la pièce jouée à Londres et la Tragicomédie de Pichou avaient privilégié l'histoire sentimentale aux dépens des exploits du chevalier errant et de son écuyer. Et vous vous souvenez que si dans Guillaume de Castro et Pichou, Don Quichotte et Sancho ne sont pas absents, en même temps il demeure un contrepoint comique dans une intrigue qui est celle du mélancolique et furieux Cardenio, du fourbe mais finalement généreux Fernando, et des deux jeunes femmes, Lucinde et Dorothée, tout à fait constantes dans leur amour. Alors, la conclusion de cela, en pensant que je consacrerai le dernier des séminaires, donc le jeudi 20, en revenant à l'Angleterre, c'est-à-dire en revenant non pas au moment où la pièce Cardenio a été jouée, 1613, Whitehall, de représentation, mais le moment où la pièce a été attribuée dans un autre contexte, qui était le contexte de l'édition du théâtre, puisqu'ici il s'agit dans le registre de la Compagnie des libraires et imprimeurs de Londres d'une mention faite par un des libraires éditeurs, Humphrey Mosley, à une pièce dont pour laquelle il a demandé le writing copy et qui a pour titre « The History of Cardenio by Master Fletcher and Shakespeare », c'est donc faire retour à ce deuxième temps de l'histoire en Angleterre. Mais avant, et ça serait la conclusion d'aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre comment ces histoires de théâtre disent quelque chose sur la façon dont le Quichotte a été compris, interprété, reçu. Et évidemment, on est immédiatement devant une tension qui n'est pas nécessairement une contradiction, entre d'un côté une réception, une appropriation du Quichotte qui est celle que nous avons vue et qui est celle qui porte l'accent sur les nouvelles à l'intérieur de l'histoire. Et vous vous souvenez qu'au début de la seconde partie, le bachelier Carrasco dit à Don Quichotte que ce qu'on a reproché dans l'histoire, son histoire telle qu'elle avait été écrite, c'était le fait qu'il n'y avait aucune raison d'être à la présence des nouvelles qui se trouvaient dedans. Alors il fait allusion évidemment au Curioso Impertinente, mais on peut étendre l'argument à ces nouvelles dans l'histoire, le récit du captif et les amours de Cardenio et des jeunes gens qui lui sont liés. Donc, le Quichotte comme une anthologie, un répertoire de nouvelles qui pouvaient être transformées en pièces, puisque ces nouvelles sont riches en coups de théâtre, en scènes dramatiques, en déguisements, en sentiments violents, contrastés. Et c'est comme cela que Guillaume de Castro, au moins en tant que dramaturge, en tant que lecteur, je ne sais, mais en tant que dramaturge, a lu le Quichotte, puisqu'il a mis en scène il en a tiré deux pièces, l'une, Don Quixote et la Mancha, c'est l'histoire de Cardenio, et l'autre, El Curioso Impertinente, les deux étant publiés dans la Primera Parte de las Comedias de Guillaume de Castro en 1618 à Valence. Et c'est comme ça, sans doute, que les dramaturges anglais ont lu le Quichotte en extrayant Cardenio, dans la mesure où cette pratique, c'est-à-dire de faire du théâtre avec des nouvelles, était tout à fait commune, et on peut même prendre en parallèle avec le Cardenio de Fletcher et Shakespeare, deux autres pièces shakespeariennes, l'une « Twelfth Night », écrite au tout début du XVIIe siècle, et qui est une des pièces qui s'appuie sur une nouvelle, la nouvelle d'Apollonius and Scylla, telle qu'elle est racontée dans un livre de Barnabé Ricci, qui avait été publié en 1581 et qui s'appelle Rich, enfin c'est R-I-C-H-E, His Farewell to Military Profession. Et c'est un des exemples dans lequel Shakespeare puise avec liberté, imagination, invention, une intrigue dans un texte qui a la forme d'une nouvelle. On peut dire la même chose, même si là, il s'agit plus d'un roman, de romance, que d'une nouvelle, du conte d'hiver, The Winter's Tale, 1609-1611, puisqu'ici, le fondement, la matrice de l'histoire du conte d'hiver est un roman, Le Pandosto, de Robert Greene, qui avait été publié en 1588 et qui avait connu un énorme succès. Donc, lire Cervantes et y chercher ou y trouver des nouvelles bonnes à adapter au théâtre s'inscrivait dans cette pratique théâtrale qui s'appuyait sur le genre de la nouvelle ou le genre du romance, mais dans un sens, on peut dire que le romance anglais est plus proche de la nouvelle au sens que classique français ou espagnol que de la historia du Quichotte. Et ça, c'est la première manière de comprendre, lire, approprier Don Quichotte, et qui ne cessera pas dans la mesure où les pièces de théâtre qui, après le milieu du XVIIe siècle, vont s'emparer du Quichotte, restent, au moins jusque dans les années 1720-1730, essentiellement des pièces qui vont un peu abandonner Cardenio, mais qui vont au contraire se focaliser sur le curieux impertinent, le curioso impertinente, ou sur le récit en trois chapitres du captif. Dans les deux cas, il s'agissait d'unités textuelles bien délimitées. Trois chapitres du curioso impertinente, trois chapitres du captif échappé des bagnes d'Alger et rencontrant à son tour les héros de l'histoire du chevalier errant. C'est une première réception. La deuxième est évidemment celle qui est moins présente dans l'adaptation théâtrale, mais qui peut l'être dans d'autres registres, et en tous les cas, qui a sans doute fondé la force, l'impact immédiat du Quichotte, c'est que la réception qui a pour point de départ la manière dont Cervantes rend contemporain dans son histoire finalement tous les genres dominants de la littérature castillane jusqu'au Quichotte pour les traiter sur un mode de parodie, mais plus encore, et là c'est une incitation à penser de cette façon que propose Francisco Rico, plus encore comme étant ce contre quoi une forme nouvelle d'écriture de la fiction peut être produite. Je veux dire par là qu'on touche ici à une dimension de la réception ancienne qui peut être localisée à travers une réflexion à la fois historique ou sociologique ou critique sur ce qui caractériserait dans leur spécificité les espaces de la création et de la réception de la fiction, c'est-à-dire une contemporanéité des différents passés des genres dans les œuvres qui s'écrivent au présent. Là, dans le Quichotte, évidemment, il y a quatre de ces passés qui sont présents dans l'écriture de Cervantes. Le roman de chevalerie, le roman pastoral, le roman picaresque et les différentes formes du théâtre. Je laisse de côté, ce serait un sujet passionnant, les formes du théâtre, depuis la rencontre de la troupe des comédiens jusqu'aux marionnettes de Rines de Passamonte, devenu maître Pierre, pour focaliser l'attention sur les trois autres genres qui sont appropriés par l'écriture de Cervantes, et qui donc du coup permettrait pourrait s'inscrire dans une perspective qu'avait tracée dans certains de ces réflexions théoriques Pierre Bourdieu sur ce qui caractérise les espaces de la production culturelle ou esthétique, c'est-à-dire d'une part cette présence au présent des passés qui peut être traitée de façon multiple, puisque dans certains cas ça peut être l'imitation. Dans d'autres cas, ça peut être la rupture, et entre les deux, toutes les formes d'appropriation, depuis le kitsch, la parodie, l'ironie. Donc cette utilisation constante, cette mobilisation constante des passés du genre, ou des passés des genres, dans le présent d'une écriture qui se définit toujours en rapport, contre, ou pour, ou avec, ou à distance, ou à l'écart d'eux. Et le deuxième élément, qui là serait plutôt une nuance à apporter à la perspective de Bourdieu, plus proche sans doute à ce moment-là de ce que je disais de Francisco Rico, c'est-à-dire que pour Pierre Bourdieu, cette capacité à mobiliser les passés des genres pouvait caractériser la forme dominante ou la plus élitaire de la production, voire de la consommation. Je cite un texte, Le Champ littéraire, qui était un article paru dans les Actes de la recherche en sciences sociales en 1991. Dans le champ artistique, parvenu à un stade avancé de son histoire, il n'y a pas de place pour ceux qui ignorent l'histoire du champ et de tout ce qu'elle a engendré, a commencé par un certain rapport tout à fait paradoxal aux legs de l'histoire. Il opposait ainsi les doctes aux naïfs. Les doctes maîtrisant cette histoire et en faisant usage dans leur production ou leur consommation littéraire, esthétique, intellectuelle, et les naïfs ignorant cette histoire, surgissant comme des apax dans un monde dont ils ne savaient rien. Alors la nuance qu'apporte le cas de Cervantes, si elle s'inscrit tout à fait dans l'idée selon laquelle il y a plus encore, plus que toute autre forme d'expression littéraire, que les passés sont des co-présents, c'est de montrer que c'est justement à l'intérieur d'une naïveté, l'ingenio lego, qu'est Cervantes, qui est hors cet univers des doctes, des savants, des lettrés, que cette présence des passés est mobilisée pour proposer de cette position qui est extérieure à ce qui serait la position établie, installée, des doctes dans le champ des lettres, une forme radicalement nouvelle d'écriture de la fiction, caractérisée ainsi par Francisco Rico, une fiction qui ne s'écrit plus dans le style artificiel de la littérature, mais dans la prose domestique de la vie. Alors on peut peut-être juste jeter un œil sur comment Cervantes procède pour cette mobilisation des passés des genres au service d'une rupture radicale dans l'écriture de la fiction, en jetant un œil pour terminer sur ces trois corpus qui sont présents dans le Quichotte de manière inégale, évidemment, ce qui fait dire normalement que le Quichotte s'établit dans un rapport parodique avec les romans de chevalerie, en oubliant qu'il s'établit aussi dans un rapport parodique avec la littérature picaresque et avec la pastorale. Le point de départ de cette parodie des romans de chevalerie, on peut le trouver dans le second chapitre de la première partie, lorsque Don Quichotte sort de son lugar, de son village, et imagine ses exploits. Mais il imagine ses exploits tels qu'ils devront ou seront écrits par une écriture qui est celle des romans de chevalerie. C'est-à-dire que, d'une part, on voit que le premier auteur du Quichotte ne serait pas Cervantes, ni Cide Hamete Benengeli, mais serait Don Quichotte lui-même, puisque dans ce passage, je donne la traduction, il y a l'ébauche d'un récit des exploits du chevalier errant qui serait écrit, dicté par lui-même et dans le style qui est celui des romans de chevalerie. Qui peut douter que dans les temps à venir, lorsque se publiera la véridique histoire de mes fabuleux exploits, le sage qui l'écrira, quand il viendra à compter cette première sortie si matinale, ne s'exprime de la sorte. À peine le blond abolon avait-il étendu sur la face de notre vaste et spacieuse terre les fils d'or de ses beaux cheveux, et à peine les petits oisillons diaprés avaient-ils de leur voix mélodieuse salué en une douce et suave harmonie la venue de l'aurore aux doigts de rose, laquelle, abandonnant la molle couche de son jaloux mari, se montrait aux mortels par les portes et les balcons de l'horizon manchègue, que le fameux chevalier Don Quichotte de la Manche, abandonnant ses paresseuses plumes, celle de ses oreillers, monta sur son fameux cheval Rocinante et se mit à cheminer par l'antique et célèbre plaine de Montiel. Et il est vrai que c'est par là qu'il cheminait, et d'ajouter « Heureux règne et siècle heureux que celui où seront publiés mes fameux exploits, dignes d'être gravés dans le bronze, sculptés dans le marbre et peints sur le bois pour que la mémoire en soit conservée à l'avenir. » Et c'est un texte très, très riche au début du chapitre 2, au début de la première salida, de la première sortie de Don Quichotte, puisque d'une part, il est évidemment une parodie qui vise à ridiculiser les styles d'écriture artificiels des romans de chevalerie, à la fois par la multiplication des formules attendues et usées jusqu'à la corde, ou jusqu'à la plume, et d'autre part par le fait que, et c'est une autre tonalité, lorsque Don Quichotte imagine où ses exploits devront être écrits, et non plus comment ils devraient être écrits par ce personnage si fréquent dans les romans de chevalerie, El Mago, El Sabio, qui écrit pour les aventures du héros, il évoque, vous l'avez entendu, le bois, le marbre et le bronze. C'est-à-dire qu'il y a là, dès le commencement du chapitre 2, une des obsessions fondamentales du Quichotte, c'est-à-dire la tension entre l'éphémère de l'écriture, toujours vulnérable, toujours menacée, toujours perdue, et d'autre part, cette aspiration à l'éternité, à la fixation, à la conservation. Ça m'avait servi un peu point de départ pour raisonner sur les rapports entre effacer et inscrire dans l'Europe moderne. Et on le voit ici d'entrée dans ce texte du Quichotte, et ce sera une sorte de leitmotiv qui accompagnera les poèmes écrits sur les écorces des arbres, les poèmes écrits sur le sable de la Sierra Morena, l'interruption du manuscrit au chapitre 8, la première partie du texte de 1605, l'effacement des textes dans les librios de memoria. Donc cette obsession par la disparition, l'effacement, la perte, l'oubli, contrebalancé par ce désir d'inscription pour toujours, et que seule, dans ce cas-là, l'inscription de nature pratiquement épigraphique sur le marbre ou sur le bronze, à l'antique, peut préserver. Mais on voit qu'ici, au point de départ, il y a cette distance, cette parodie, cette appropriation de l'écriture des romans de chevalerie. Et si on se souvient de la démonstration qu'avait faite ici et maintenant dans ce livre, El sueño caballeresco, Pedro Cátedra, cette parodie, elle n'est pas la parodie de la beauté d'un mort, comme si finalement les romans de chevalerie, ce qu'on a pu soutenir comme thèse, n'avaient plus d'existence à l'époque de Cervantes, et que dans un certain sens, il construit cette parodie contre quelque chose qui n'existe plus. Vous vous souvenez que, d'une part, il y a dans les années finales, la décennie finale 1560 et suivante du XVIe siècle, un nouveau flux de la présence des romans de chevalerie, des rééditions, des copies manuscrites et des transformations de la forme qui peut venir s'inscrire dans les romances et non plus dans les livres. Mais il y a une très grande présence de ce que Cátedra appelle la chevalerie de papier, la caballería de papel. Et d'autre part, il y a une seconde grande présence de cette chevalerie qui est celle de la chevalerie réelle et royale, caballeria real, dans le sens que les réformes de Philippe II, comme on l'a vu, les édits ou les ordonnances de 1560, veulent restituer un rôle militaire, au moins de milice intérieure, à la hidalguie, à la petite noblesse. Donc du coup, il y a une présence historique et littéraire, mais ce qui est la force, évidemment, de la parodie, c'est de montrer que, et cette présence militaire à laquelle aspire Alonso Quijano avant de se nommer Don Quichotte de la Manche. Et cette présence littéraire est en total décalage avec le monde qui est celui de Don Quichotte. C'est-à-dire que l'effet, il est celui du décalage d'une manière d'écrire et d'une volonté politico-sociale par rapport à un monde dans lequel cette manière d'écrire est devenue ridicule, usée à force de clichés, et d'un monde dans lequel le rêve, peut-être fait par Alonso Quijano, de retrouver un pouvoir fondé sur la contribution militaire de la petite noblesse, est évidemment lui aussi devenu un songe, une époque de construction des États administratifs, bureaucratiques, de finances et de justice. Et du coup, une des premières justification pour cette écriture qui est en rupture avec cette écriture de la fiction du roman de Chevalry que Don Quichotte assume comme premier auteur du récit de ses propres exploits. Les deux autres figures de parodie sont évidemment plus discrètes. Il y en a une qui est celle du genre introduit au milieu du XVIe siècle par les premières éditions de La Salio de Tormes, c'est-à-dire le genre picaresque, mais dans une définition tout à fait précise, le récit de vie, la vida. Et c'est le moment où, libérant les galériens, Don Quichotte rencontre Ginés de Pasamonte. Et qu'est-ce qu'a fait Ginés de Pasamonte? Il est l'auteur d'un livre qui est le livre de sa vie et qui a pour titre La vida de Ginés de Pasamonte. Et du coup, c'est Bauche, ce qui aurait pu être un autre Quichotte, c'est-à-dire la parodie fondamentalement liée à les contradictions de ce genre, des récits de vie picaresques. On y trouve des allusions même extrêmement précises, puisqu'à un moment donné, Ginés de Pasamonte dit « Ginés me llamo y no Ginesillo ». Je m'appelle Ginés et non pas Ginesillo. Et c'est une référence tout à fait aiguë au fait que dans le Lazario de Tormes, jamais, sauf pour une plaisanterie, Lazario s'appelle Lazario, il s'appelle toujours Lázaro. Et c'est un récit de vie fait par un homme mûr qui revient rétrospectivement sur son histoire et dont, dans l'édition, c'est une autre démonstration qu'avait fait Francisco Rico, la page de titre, pour s'ajuster à d'autres conventions, avait choisi Lazario de Tormes, qui est tout à fait un décalage de la façon dont le personnage est appelé dans le texte. Et là, l'allusion est présente dans le texte de Cervantes, comme est présente l'allusion à la contradiction d'un récit de vie de quelqu'un qui n'est pas encore mort. C'est-à-dire, finalement, là, Don Quichotte demande à Ginés, et votre vida de Ginés de Pasamonte, elle est terminée, ya está acabado, mais comment voulez-vous qu'elle puisse l'être puisque ma vie ne l'est pas encore. Donc il y a là cet autre jeu, et il y a un troisième jeu qui est le succès commercial du genre, puisque Ginés de Pasamonte a, pour recevoir de l'argent, donné en gage son manuscrit et qu'il est prêt à le racheter à n'importe quel prix, dans la mesure où il y a là la possibilité de faire de l'argent avec l'écriture. Et vous voyez que la résonance pour Cervantes de la moquerie et de l'appropriation parodique de la picaresque, elle se joint à un thème plus fondamental encore, qui est écrire pour la renommée ou écrire pour le profit. Thème qu'on retrouve à la fois dans les prologues de la seconde partie, enfin dans les, oui, l'avertissement au lecteur de la seconde partie, et qu'on trouve évidemment dans la discussion entre le traducteur et Don Quichotte lorsque celui-ci visite une imprimerie dans la seconde partie au chapitre 62, et où s'opposent clairement deux systèmes de relations, l'un qui est fondé sur le désintéressement de l'écriture, dont la rémunération ne peut être qu'indirecte dans les liens du patronage, et l'autre qui est fondée sur la loi du marché et qui attend de l'écriture un profit immédiat. Le traducteur dit à Don Quichotte « Provecho quiero », la renommée je l'ai déjà, donc c'est ça que je veux. Et là, dans la perspective de Cervantes, pris dans les relations de patronage avec ses différents et successifs protecteurs, il y a au moins la manière de désigner une des tensions fondamentales de ce rapport entre écriture, renommée et profit ou revenu dans son temps. La dernière des parodies, c'est celle qui apparaît à la fin du livre, de l'Historia, lorsque, en termes de punition qu'il accepte après la défaite devant le chevalier de la Blanche Lune, donc Don Quichotte accepte pendant un an de remettre ses armes là où elles sont et de faire retraite dans son village, et s'ébauche une troisième forme d'écriture qui, en appropriant une forme d'écriture déjà là, justifie, montre la puissance d'une écriture que personne n'a encore jamais lue, comme celle du Quichotte, c'est-à-dire la parodie de la pastorale, du roman pastoral, puisque, inspiré par des paysans qu'il a rencontrés, qui sont en train de mettre en réalité les églogues, comme le dit le texte, une du fameux poète Garcilaso et l'autre de l'excellent, du plus qu'excellent, excellentissimo Camões, en su misma lengua portuguesa, il y a cette ébauche de ce qui aurait pu être une troisième partie de Don Quichotte, c'est-à-dire un Don Quichotte qui serait devenu le pasteur Quixotis, puisque dans cet imaginaire d'une nouvelle vie, ce qui est le cœur, c'est de la transformation de l'intrigue et de tous les personnages en personnages de la fiction pastorale. Don Quichotte ne se nomme plus Don Quixote la Mancha, mais El Pastor Quixotis, Sancho Panza s'appelle El Pastor Pancino, et tous les autres personnages prennent des noms de pastoral, et toute une ébauche d'histoire se développe autour de cette nouvelle folie, comme il est dit dans le texte, de Don Quichotte, et avec un aspect d'ailleurs d'auto-parodie, ce qui est aussi la force du texte, puisque lorsque Samson Carrasco qui entre dans le jeu. Mais ici, on voit d'ailleurs, c'est une parenthèse, que l'entrée dans le jeu de Don Quichotte n'a plus les mêmes résonances qu'auparavant lorsqu'il s'agit de moquerie ou de plaisanterie, où les personnages décident d'assumer des rôles qui leur font plaisir et qui vont duper Don Quichotte, comme par exemple Dorothée Micomicona. Dans les derniers chapitres, on sent que l'acceptation de ces folies de Don Quichotte, de jouer des rôles de composition, elle a une autre dimension qui est beaucoup plus tragique dans un sens, c'est-à-dire la dimension de maintenir la vie de la fiction et finalement de lutter contre la disparition, la perte et la mort. Et qu'au moment d'ailleurs du dernier chapitre, de la dernière scène, lorsque Don Quichotte est expirant, Sancho lui dit « Mais ne soyez pas paresseux, levez-vous de ce lit, allons vêtus comme des pasteurs, comme nous l'avons décidé, comme au tenemos concertado, jouer, être dans ce monde qui est ce monde d'illusion, qui est meilleur que ce monde d'une réalité dans laquelle Don Quichotte se meurt et l'histoire s'achève. » Il y a une double volonté de retenir et l'histoire et la vie. Et donc, du coup, la dernière fiction, celle de la pastorale, est lestée de ce poids différent des parodies précédentes. Alors, je disais, il y a une dimension d'auto-ironie, puisque Samson Carrasco, il dit que il faudra que tous ces pasteurs imaginent des femmes auxquelles ils rendront leurs hommages, comme dans les romans pastoraux. Et il dit, oh, si nous sommes à court d'imagination pour inventer des noms, nous les trouverons que dans déjà estampados y impresos, déjà imprimés, et le monde en est plein, des Philidas, Amarilis, Dianas, Fleridas, Galateas. et Belisardas. Et à Galatée était le premier texte de Cervantes, publié en 1585, dont il annonce de prologue en prologue dans tous ses autres ouvrages que la seconde partie est imminente dans la publication. C'est même un retour qu'il fait dans un texte qu'on peut mettre en écho avec ce dernier chapitre du Quichotte, c'est-à-dire les préliminaires du Persiles Sigismunda, qui, comme on le sait, ne sera publié qu'après sa mort en 1617, et dans laquelle, une fois encore, il annonce la fin possible, prochaine, de la Galatéa. Comme si ici, autre poids, la parodie, la moquerie de la pastorale s'accompagnait de ce retour sur lui-même et s'accompagnait du fait que le premier genre dans lequel il s'est fait connaître dans l'écriture était un écrit qui s'inscrivait dans la pastorale. Alors je crois que je termine avec ça, même si ça nous a éloignés des adaptations théâtrales, mais il est évident que ça ne nous a pas éloignés des réceptions du Quichotte pour les lecteurs du temps. Ces éléments étaient difficiles à manier. On a vu que Guillaume de Castro s'en approchait lorsqu'il met dans la bouche de Don Quichotte un art poétique qui justifie les coplas castellanas contre tous les genres érudits, savants, le sonnet, le esdrújulo. Donc, il y a possibilité, mais évidemment, ce n'est pas très spectaculaire. Ou alors, il faut choisir une autre intrigue qui serait centrée, déployant ces ébauches de parodie. Mais non, elle ne nous éloigne pas pour autant de la réception du Quichotte, puisque les lecteurs ne pouvaient être que sensibles, frappés, amusés par la présence dans le Quichotte de tous les genres qu'ils connaissaient, mais transformés, distanciés, parodiés, pour certains moqués, que donc, du coup, Cervantes établissait cette contemporanéité des passés dans une synchronie qui était celle de son écriture, et que, avec ses référents ainsi donnés dans son propre texte, il construisait, dans un contraste plus violent, plus frappant pour le lecteur, une manière d'écrire une fiction comme on n'en avait jamais lu, dans la mesure où elle s'appuyait sur une expérience qui n'était pas celle des cercles lettrés, qui n'était pas celle des doctes, qui n'était pas celle des savants, et que c'est parce que, justement, il était un naïf qu'il pouvait manier avec cette puissance d'habileté parodique et en même temps de contrepoint de cette écriture qui mobilise la prose domestique de la vie, qu'il pouvait écrire une histoire qui, immédiatement, on l'a vu, à la fois sortie des livres, puisque dans de nombreuses situations, les personnages acquièrent une incarnation, comme dans les fêtes de cour ou les fêtes carnavalesques, ou les deux à la fois, du Pérou à l'Espagne et de l'Allemagne à la cour de France, mais en même temps était un répertoire inépuisable pour de multiples transferts de genre. Et ce que j'ai essayé de suivre jusqu'ici s'inscrivait évidemment dans les différents genres de la production théâtrale entre tragicomédie et comédie. Merci, on se retrouverait le 20 pour le dernier séminaire.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.